Voilà, ce dernier dimanche, nous avons pris quelques temps pour réfléchir à ces relations fraternelles, à ce que l'Église est une famille, après avoir commencé Ésaïe en début d'année. Et maintenant, nous reprenons Ésaïe. Alors, si vous voulez chercher avec moi chapitre 13, c'est la page 687 dans les Bibles de l'Église. Nous reprenons Ésaïe, donc. Mais tout est lié dans la Bible, vous savez. Un verset que nous avons vu dimanche dernier, un verset clé qui définit ce qu'est l'Église. J'avais fait ce diapo, c'est en 2 Corinthiens 6:7. « Je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est ça l'Église, c'est cette famille où Dieu est notre Père. Il nous accueille en tant que ses fils et ses filles. Ça fait de nous des frères et des sœurs. Mais ce verset vient d'Ésaïe, vous le savez. Et j'ai pas osé mettre toute la phrase dimanche dernier parce qu'on parlait de l'accueil et des fils et des filles, mais la citation complète de ce verset qui définit ce qu'est l'Église, la première phrase dit « Sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux, sortez, et ne touchez rien de ce qui est impur, et je vous accueillerai, vous serez pour moi des fils et des filles. Sortez, et je vous accueillerai. » Et ce verset vient d'Ésaïe, et si vous creusez le contexte d'origine, C'est sortez de Babylone, sortez de cette ville Babylone et je vous accueillerai, disait à l'époque Ésaïe à son peuple Israël. Sortez, c'est un peu ce que c'est que d'être chrétien, d'être l'Église, c'est des gens qui se sont sortis de quelque part, sortis de ce monde, sortis de Babylone pour former une nouvelle famille. Eh bien ce matin nous allons parler de Babylone, parce que c'est un thème important de la Bible, une ville importante. Babylone la Grande, nous avons eu déjà quelques lectures en Apocalypse. Cette ville va jouer un rôle important dans la Bible, à la fois historique et symbolique aussi. À l'époque d'Ésaïe, elle allait bientôt devenir une force dominante, une menace pour Israël. Mais Ésaïe va dire des choses à son peuple pour les rassurer, pour qu'ils ne se laissent pas trop impressionner par Babylone, Babylone la Grande. Alors vous avez Ésaïe 13 devant vous maintenant, lisons ensemble l'ensemble de ce chapitre, Ésaïe 13. Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amoth. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte armée, j'ai appelé les héros de ma colère. Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du tube puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. J'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'orphin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Orphir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. Par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Alors comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne feront aucun cas de l'argent, qui ne convoitent point l'or, de leurs arcs qui abattront les jeunes gens. Ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. Et Babylone, la parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre, que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ses maisons, les autruches s'en feront leur demeure, et les boucs y sauteront, les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, ils domineront sur leurs oppresseurs, quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude de faux qui te fut imposée. Voilà Babylone la grande, le joyau des royaumes. La cité splendide, on parle encore aujourd'hui d'une merveille du monde de l'époque. À l'époque d'Ésaïe, quand il écrit ces paroles, Babylone n'était pas encore la première puissance mondiale. Cette position allait à l'Assyrie. Mais Babylone montait en puissance. Déjà, c'était un peu capitale de la culture. C'était Paris, New York et Hollywood ensemble. Mais tout ce chapitre, et le suivant, chapitre 14, annonce sa chute, annonce sa destruction, sa disparition. Comme nous avons lu en verset 19, Babylone sera comme Sodome et Gomorre, que l'Éternel détruisit. Alors nous allons apprendre ce matin que la chute historique de Babylone est une image du jugement dernier de Dieu, qui peut nous apporter repos et paix et salut, et qui devient une assurance pour le peuple de Dieu. Voyons ce matin ces choses. La chute de Babylone est typique du jugement dernier. Ensuite, nous allons voir que le péché de Babylone est symptomatique de la race humaine, du problème de la race humaine. Et la chute de Babylone est source de salut et de joie pour nous, le peuple de Dieu. Tout d'abord, voyons cette chute de Babylone que Ésaïe va prophétiser. À partir de ce chapitre 12, on a déjà vu qu'Ésaïe avait pas mal parlé à son peuple, dénoncé leurs problèmes, leurs péchés, annoncé aussi des belles promesses. Chapitre 12 avait terminé avec la promesse du salut. Et maintenant, Ésaïe va se tourner à tous les pays autour d'Israël. Vous connaissez votre géographie, vous faites le tour, il y a des pays au sud, au nord, à l'est. Et donc, Ésaïe va parler sur une dizaine de pays. Mais il commence avec Babylone, qui est en voie à devenir la ville la plus grande, la plus belle, la plus célèbre de l'époque. Et déjà, Ésaïe annonce une chute épouvantable, totale, dramatique de cette ville, comme nous l'avons lu dans ce chapitre 13. Et déjà, qui aurait cru à l'époque ces paroles d'Ésaïe? C'est un peu gonflé, ce petit inconnu, ce fils d'Amoz. C'est qui lui? Qui vient d'un minuscule pays, qui a ses propres problèmes, ses propres faiblesses, ses propres travers. Le voilà qui prédit la chute et la disparition de la ville la plus grande, la plus belle du monde. Déjà à l'époque, ça aurait été difficile à prendre Ésaïe au sérieux, qu'il annonce la chute, le renversement total de Babylone. Alors c'est vrai que dans un sens, tout le monde peut être alarmiste. Bon, des fois, on sait qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux les prophètes de malheur. Tout le monde peut dire « la fin du monde en 2022 ». On l'a déjà dit « la fin du monde en 1990, ou bien plus de neige au pôle Nord en l'an 2000, ou plus de neige dans les Pyrénées. Mais hier, c'était pas vrai. Alors, il y a toujours eu des prophètes de malheur, faut-il les croire? Faut-il les prendre au sérieux ou pas? Tout le monde peut annoncer la fin du monde. Et des fois, à force d'entendre ça, on peut être un peu blasé d'entendre ces choses, on veut vivre dans le présent. Mais l'histoire donne raison à Ésaïe. Nous allons voir qu'il a prophétisé avec beaucoup plus de précision que certains de nos prophètes modernes dans les médias. Il a dit dans ce chapitre, si on va revoir ces versets, il commence dans les premiers versets, 2 à 5, et il dit que Dieu va susciter, c'est Dieu qui parle, il dit « Je vais susciter des armées contre Babylone. J'ai donné des ordres à ma sainte armée, verset 3. J'ai appelé les héros de ma colère. » Ça ne veut pas dire que ces armées sont remplies de personnes pieuses et croyantes. Mais que cette armée, Dieu la consacre a une mission à accomplir sa volonté, je peux utiliser les événements de ce monde, les événements géopolitiques, comme les événements climatiques, comme les choses vivantes, comme les virus, pour accomplir ses plans pour le monde. Et ici, il dit qu'il va susciter des armées contre Babylone. Et étonnamment, en verset 17, il dit quelles armées, quel peuple va le faire. Il dit, verset 17, « Voici, j'excite contre eux les Mèdes. Ils ne font point cas de l'argent. » Les Mèdes et les Perses, vous avez entendu peut-être parler des Mèdes et des Perses. Eh bien, effectivement, c'était des Mèdes, c'était l'armée Mèdes et Perses qui est venue attaquer et renverser Babylone. C'est à cause de tels détails que beaucoup vont dire que Ésaïe a été écrit bien plus tard, après les faits. Comment il pouvait savoir ça à 150, à 200 ans avant les faits? Il annonce déjà la chute de Babylone par le royaume des Mèdes. Ensuite, versets 7 et 8, il va décrire une situation épouvantable, quelque chose de stupéfiant. Il dit en verset 7, « Toutes les mains s'affaiblissent, tout cœur d'homme est abattu, ils sont frappés d'épouvante. » La situation là qu'il décrit, c'est une situation qui arrive de manière soudaine, de manière épouvantable, terrifiante. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand vous lisez par exemple le livre de Daniel, vous connaissez l'histoire avec la main qui est écrite sur le mur, et bien ça s'est fait pendant une fête. Le roi babylonien était dans l'insouciance totale, il faisait la fête avec tous ses amis, il buvait, et puis cette main annonce le jugement, et la nuit même, dit le texte, le roi de Babylone est mort. Parce qu'il ne savait pas, mais les armées mèdes étaient à sa porte et avaient renversé son royaume. Donc effectivement, une situation où les gens vivent dans l'insouciance, et puis épouvante, terreur. Le texte dans Daniel dit que le roi de Babylone tremblait quand il a vu cette main. Il tremblait et il avait le cœur comme décrit Ésaïe dans ses versets. Donc Ésaïe annonce les Mèdes, il va renverser Babylone, il annonce une fin subite, inattendue, épouvantable, terrifiante. En plus, il annonce non seulement une défaite, une chute de Babylone, mais une disparition irréversible, totale. C'est ainsi que termine le chapitre. Verset 20, elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera jamais plus peuplée. Et puis décrit tous ces animaux, ça va devenir un peu les champs désertiques pour les nomades. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Babylone, c'est ça qui est un peu étonnant. La plupart des villes, ils peuvent se faire renverser lors des guerres, lors des batailles, mais souvent on va reconstruire la ville. Après, les archéologues, ils vont trouver plein de couches successives de la ville dans les fouilles, mais la ville est toujours là. Et beaucoup de grandes villes du monde sont toujours là. Mais Babylone a cette particularité d'avoir été abandonnée. Ça a été détruit. Successivement, les royaumes sont passés. Après les Mèdes et les Perses, il y avait les Grecs et tout ça, mais on n'a pas reconstruit Babylone. Et encore aujourd'hui, Babylone, c'est des ruines, c'est un site archéologique, mais c'est dans le désert, c'est pas une ville qui a été reconstruite. Donc vous voyez déjà, bien avant les faits, Ésaïe va annoncer avec vérité, avec précision, la chute historique de Babylone. Mais quand on relit ce chapitre, les propos d'Ésaïe, visiblement, vont bien plus loin que juste la simple histoire de Babylone. Il y a certains versets qui vous ont interpellé, peut-être, dans ce chapitre. À partir du verset 9, par exemple, « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude. » Il semble que la terre entière est concernée en verset 9. Et puis verset 10, « Les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, la lune ne fera plus luire sa clarté. » C'est vrai, lors d'une grande bataille, même avant les canons et avant les armes nucléaires, un soldat pouvait avoir cette expérience de voir le soleil s'obscurcir, de ne plus voir briller les étoiles. On a des récits de guerre où effectivement tellement il y a des incendies, il y a de la fumée, il y a des explosions. Et on a l'impression que le monde entier s'ébranle. Et donc ces versets peuvent, dans un sens, peuvent s'appliquer à toute bataille sévère, une guerre, une situation de guerre. Mais au-delà de ça, ça va plus loin quand on parle de toutes les étoiles des cieux et les astres qui ne feront plus briller de leur lumière. Verset 13, Dieu dit, j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. Verset 12, il y a la population mondiale qui est concernée par ce jour. C'est pourquoi les auteurs bibliques vont reprendre les idées et le langage de ce chapitre pour décrire le chapitre final de l'histoire, ce que la Bible appelle le jour de l'Éternel. C'est la première fois qu'on trouve cette expression, c'est dans ce chapitre. Verset 6, vous le voyez, gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Verset 9, encore, voici le jour de l'Éternel arrive. Verset 12, au jour de son ardente fureur, verset 13. Ce jour de l'Éternel, c'est ce jour où Dieu entre en jugement avec le mal. Et nous voyons donc que la chute de Babylone est un prototype, en quelque sorte, de la victoire finale du bien sur le mal, lorsque Dieu juge le mal. Et c'est pour ça, comme nous avons lu ce matin, comme les filles nous l'ont lu, que la Bible termine avec un récit de la chute de Babylone la Grande, Apocalypse 18 et 19. Et là, en l'occurrence, on ne parle pas de la ville historique, forcément. Peut-être Jean avait déjà en tête l'Empire romain, il y a pas mal de détails dans le récit d'Apocalypse 19 et 20 qui décrivent Rome, qui était comme, en quelque sorte, une nouvelle Babylone, avec les mêmes comportements, les mêmes péchés, les mêmes travers, la même rébellion contre Dieu, la même prise de pouvoir. Donc Babylone la Grande qui tombe à la fin de la Bible, c'est pas forcément la ville historique, est-ce Rome, l'Empire romain? Mais on pourrait aller plus loin et dire, en quelque sorte, c'est un résumé, cette Babylone-là, de tous les empires, de toutes les puissances politiques, économiques, religieuses, qui se sont opposées à Dieu et qui ont créé un système, une manière d'être, une manière de croire, une manière d'agir, qui est anti-Dieu. Et donc, le jour de l'Éternel, c'est le jour où Dieu entre enfin en jugement. Alors, ça vous fait quoi d'entendre parler de ce jour de l'Éternel? Ce jour de colère, d'ardente colère. On n'est pas habitué à entendre parler de Dieu comme ça, peut-être? C'est verset 6, un ravage du Tout-Puissant. Verset 9, son ardente fureur. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que le Dieu que vous connaissez est un Dieu capable de ces choses? Récemment, il y avait ce pasteur un peu connu de nos jours, John Piper, il était à Paris, et on lui a posé la question, une table ronde, qui m'a interpellé, ils ont dit, à ton avis, quelle est la vérité la plus négligée aujourd'hui, parmi les évangéliques? C'est son avis, il m'a dit, faites la colère de Dieu, que Dieu est en colère avec ce monde. On parle souvent de l'amour de Dieu, il rappelle Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle contre toute injustice. Bien sûr, nous allons voir comment la colère de Dieu n'est pas incompatible avec son amour. Nous l'avons déjà chanté. Mais nous ne voulons pas négliger ces réalités. Et que c'est même une bonne chose que Dieu soit en colère contre le mal. Il y avait cet athée militant. Cette histoire m'a touché un jour. J'ai lu ça, un athée militant qui était venu, était anglais, mais était venu en France. Il faisait du tourisme et il se retrouvait à Bonn, c'est une ville, Châlons, Lyon, au nord, tout ça. Et il visitait les hospices de Bonn, et dans les hospices de Bonn, moi je l'ai vu aussi avec ma famille, il y a on visite les lieux, et puis leur pièce maîtresse, dans cette visite guidée, du musée, c'est un grand tableau, une peinture, c'est le jugement dernier, c'est de l'art médiéval. Alors lui, cet athée militant, il est là avec un peu sa copine, il voit ce tableau et sa première action, c'est de se moquer un peu. C'est vrai que l'art médiéval, un peu particulier, je sais pas si vous avez déjà vu ces choses, c'est pas ce qui vous attire le plus. Mais il était sur le point de se moquer, et puis en voyant les détails, en voyant la qualité de l'art, en voyant cette scène du jugement dernier, les uns qui sont admis au baril, les autres qui subissent cette ardente colère, quelque chose s'est fait. Dans son regard, dans son cœur, et il s'est vu, et il trouvait que était saisi par la vérité imagée par cet art, la vérité de la chose, ce jugement dernier, peut-être ça me concerne. Et ce qui a, pour lui, ce qui l'a conduit à se convertir à Jésus-Christ. J'ai trouvé l'histoire intéressante parce que des fois, ce message d'un jugement dernier, de la colère, nous l'avons besoin d'entendre pour, comme nous avons vu, trouver notre refuge en Christ. Donc la chute de Babylone est typique du jugement dernier. Mais voyons maintenant les raisons pour cette chute, ça va nous aider aussi, parce que nous allons voir que le péché de Babylone est symptomatique de la race humaine, des problèmes de notre monde. À partir du verset 11, nous voyons pourquoi Dieu doit entrer en jugement et renverser cette ville. Il dit « Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. » On précise « Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. » L'orgueil des hautains et l'arrogance des tyrans. Et puis je vais maintenant vous lire quelques versets dans le chapitre 14 qui, autant le chapitre 13 parle de la ville de Babylone, le chapitre 14 parle de son roi, ce tyran. Et en chapitre 14, regardez 13, verset 13, 14, 15, on décrit l'attitude du roi de Babylone, ou des multiples rois de Babylone certainement. 14, verset 13, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu étais précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Voilà l'attitude du roi de Babylone, qui dit « Je monterai au ciel. » Voilà les pensées de son cœur. Je serai semblable au Très-Haut. Et en fait, c'est ça l'esprit de Babylone. C'est ça le péché de Babylone. Depuis le début, d'ailleurs, cette attitude qui traverse la Bible, qui traverse l'histoire de l'humanité. Babylone incarne cet esprit arrogant et rebelle et hautain. Vous savez, Babylone a commencé à, vous connaissez l'histoire, la tour de Babel. Tout a commencé là, Babel, Babylone. Avec ce projet de construire un tour jusqu'au ciel pour prouver qu'on peut nous monter tout aussi haut que Dieu pour se faire un nom. C'est une manière de dire on n'a pas besoin de Dieu pour atteindre cette position. Quelque part, c'était l'homme qui dit nous pouvons remplacer Dieu. C'est une manière de dire ce n'est pas Dieu qui est Dieu, c'est moi qui suis Dieu. Voilà ce qui anime les rois à Babylone. On a vu avec Nebuchadnezzar, le plus grand roi, il dit « Babylone la grande que moi j'ai construit. » Et il est fier, arrogant. L'attitude de le péché de Babylone, c'est de dire « Voilà, je me mets à la place de Dieu. » C'est pas Dieu qui est Dieu, c'est moi qui suis Dieu. Et vous savez, cette attitude est à la racine de tout mal, de tout péché. C'est ainsi que Satan a tenté Ève. Tu seras semblable à Dieu. Sois ton propre Dieu, en quelque sorte. Effectivement, cette attitude a animé quantité de dirigeants, de rois puissants, d'empires. Le diable lui-même, certainement, était animé par cette attitude. Vous voyez, le péché de Babylone est symptomatique de tout ce qui ne va pas dans notre monde. Je suis tombé sur un article dans la Dépêche, ça remonte quelque temps, mais c'était l'article de la Dépêche, parlait de ce Français Fabrice Tour, qui s'était allié à l'époque à la machine new-yorkaise pour inciter les gens à investir dans les fonds pourris. Ça fait beaucoup d'argent, et après il y avait la crash. L'article s'intitulait « Maître de l'univers ». Maître de l'univers, je cite, « Dans son fameux best-seller Le bûcher des vanités, l'écrivain Tom Wolfe nous décrivait ainsi, maître de l'univers, les sentiments merveilleusement cyniques de ces jeunes lions qui se croyaient les rois de la finance et par conséquent les rois de l'univers. Lors de son procès, on a déploré une arrogance terrible de la part de ce jeune. Cet article termine en disant « Ce sont nos meilleurs jeunes gens, formés par nos meilleures écoles. » Et il constitue les rouages d'une grande machine à fabriquer du profit. Maître de l'univers, sans limite, ce qu'on peut faire avec l'argent. sans limite du pouvoir qu'on peut s'amasser. Et tout ça, c'est 2008, 2009, 2010. Voilà Babylone. Voilà l'attitude qui anime Babylone. Mais c'est pas que les rois puissants, c'est pas ceux qui sont dans les grands tours de New York. Il y a cette lutte dans chacun de nous. Cette question qui est là, qui va être maître de l'univers? Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez ensemble plein de gens qui veulent chacun être maître de l'univers? Quand vous les mettez ensemble sous un même toit, quand vous les mettez ensemble dans une même entreprise, quand vous les mettez ensemble dans une même ville, dans un même monde, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez plein de ces gens, comme vous et moi, qui veulent tous être maîtres de l'univers? Eh bien, il y a des problèmes. Et le monde se pourrit, se corrompt. Ça marche pas quand tout le monde veut être maître de l'univers et qu'on veut supprimer cette place à Dieu seul qui est digne de l'être. Donc c'est vrai, il y a des pratiques financières qui sont babyloniennes. Il y a des pratiques professionnelles qui contribuent à construire cette Babylone. Il y a des manières de concevoir son corps et sa sexualité qui sont babyloniennes. C'est moi qui suis maître, c'est moi le Dieu, c'est moi qui décide ce qui est bien et mal. Toute cette Babylone se grande, elle nous éclaire pas mal sur notre propre cœur. Et nous reconnaissons que un monde ainsi, est-ce que nous le voulons vraiment? Heureusement, Dieu va s'occuper de ça. D'où la chute de Babylone qui est annoncée dans la Bible. Maintenant, nous allons voir que cette chute de Babylone, elle est source de joie, de repos, de paix pour son peuple. Et donc, Ésaïe, après avoir... dans tout ce chapitre 13, parler de cette chute épouvantable, terrible. Eh bien, en chapitre 14, avant de parler du roi Babylone et de son arrogance, il va nous rassurer et nous apprenons la raison aussi, une autre raison pour le jugement de Babylone, pour éradiquer l'orgueil, mais aussi pour offrir de la sécurité et du repos à son peuple. Chapitre 14, verset 1, « Car l'Éternel aura pitié de Jacob. » Il choisira encore Israël, il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et s'uniront à la maison de Jacob. Verset 3, quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui te fut imposée, tu vas pouvoir te réjouir. Pourquoi Dieu renverse Babylone? Ben c'est pour remettre la paix dans ce monde, pour remettre la sécurité. C'est pour offrir à toute la terre du repos. Si je lis en verset 7, 14, 7, un peu plus loin. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. La chute de Babylone. C'est ça qu'il faudra pour que toute la terre soit dans la paix et dans le repos. Et quelque part, on devrait tous vouloir ça. Une paix, un monde de paix, de repos, sans agitation. Mais comme nous avons vu, un monde rempli d'orgueil, un monde rempli d'arrogance, un monde rempli d'autosuffisance, un monde rempli de ces maîtres de l'univers. Qui veut vivre dans un tel monde? Ça, c'est pas un monde de sécurité, ça, c'est pas un monde de fraternité. Alors, on crie au secours, et justement, Dieu vient, et c'est vrai qu'il se met en colère, par amour, et il renverse le mal pour nous offrir un monde meilleur. Donc la colère de Dieu est aussi une expression de son amour. Et, ceci dit, c'est intéressant. Oui, on parle de la chute épouvantable de Babylone, de cette ardente colère. Mais, comme chaque fois que Dieu entre en jugement, que ce soit à Sodome et Gomorre, ou l'arche de Noé, ou le dernier jugement, il offre une sortie de secours. Il y a ce petit détail en chapitre 14, verset 1. Il aura pitié de son peuple, Israël. Mais aussi, il dit, deuxième partie du verset, les étrangers se joindront à eux et s'uniront à la maison de Jacob pour eux aussi connaître le salut et la sécurité. Les étrangers pourront se joindre au peuple de Dieu pour échapper à la chute de Babylone. Ces étrangers, ils pouvaient même être des Babyloniens, en quelque sorte. Des Babyloniens, des Toulousains, des Parisiens, des Californiens même, peuvent se joindre au peuple de Dieu à tout moment. Et on a même l'histoire de ce Nebuchadnezzar qui incarnait en quelque sorte l'attitude babylonienne, de cette arrogance, de cette fierté, de cette cruauté, même envers les autres. Il voulait que tout le monde l'adore, il était prêt à mettre des gens à mort. Eh bien, Dieu semble avoir touché son cœur, en tout cas l'a invité à changer d'attitude et à reconnaître que seul Dieu est le maître de l'univers. Et dans le livre de Daniel, Nebuchadnezzar est prêt en moins à reconnaître certaines vérités. Est-ce qu'il s'est joint au peuple de Dieu par la foi? On saura. Mais vous comprenez donc maintenant cet appel, quelque part, qui parcourt toute la Bible. La Bible termine, on a lu ce matin en Apocalypse 18, repris dans 2 Corinthiens 6. Dieu appelle, sortez du milieu d'elle, sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Maintenant, vous comprenez cet appel. Sortez, sortez de Babylone. Soyez de ces étrangers qui se joignent à mon peuple et qui peuvent se réjouir de la chute du mal. Qui ne veulent pas participer à tout ce qui rend Babylone méchante et affreuse et terrible. Ça, c'est l'offre de salut de Dieu. Sortez du milieu d'elle. Et il nous offre ce refuge dont nous avons parlé dans les cantiques ce matin. Dieu nous offre un refuge en Christ pour échapper au jugement dernier. Si tu veux fuir ma colère, dit Dieu, cache-toi dans mon amour. Alors comment agir face à ces vérités, ce jugement dernier qui est certain, qui sera épouvantable si on n'y est pas prêt, qui est facile à ne pas croire ou à s'en moquer, mais comme l'époque d'Ésaïe, Ésaïe avait raison. Je pense que le but d'Ésaïe, c'est de pas non plus inculquer la panique, l'inquiétude. C'est vrai que l'insouciance, c'est pas une bonne démarche, mais la panique et l'inquiétude ne l'est pas non plus. Ésaïe parle d'ailleurs pour encourager son peuple. Ésaïe n'est pas allé dans tous ces pays pour annoncer ces choses. Dieu aurait pu l'envoyer. Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour l'appeler à la repentance. Et Dieu a placé des gens, même à Babylone, pour les appeler à la repentance, comme Daniel. Mais ici, la manière que Ésaïe parle, et c'était pour encourager la foi de son peuple. Et cette chute certaine de Babylone, qui pour nous représente tout un système d'être, un système de pensée de ce monde, qui est voué à l'échec, à être renversé. Cette chute certaine de Babylone peut nous aider à faire des bons choix dans la vie. On n'achète pas une voiture qu'on sait va tomber en panne et perdre toute sa valeur. On ne monte pas dans un avion dont on sait les ailes vont tomber en plein vol. Maintenant, c'est un Boeing 737. On n'investit pas de l'argent dans une entreprise qui est sur le point de faire banqueroute. De la même manière, on ne veut pas placer sa confiance dans un système, dans un empire, dans une ville, pour ainsi dire, que l'on sait va être renversé. Alors, où est-ce que vous allez investir votre temps, votre énergie, vos pensées, votre cœur? Est-ce que vous allez passer votre vie à construire Babylone et adopter son attitude et ses priorités? Ou est-ce que vous allez investir votre vie à construire à rejoindre la famille éternel de Dieu, à vivre pour cette cité céleste? Aujourd'hui, des fois, au vu, Babylone semble grande et impressionnante et belle. Et la famille de Dieu, la cité céleste, on la voit pas trop, des fois minable. Mais mettez-vous à la place du peuple à cette époque aussi. Babylone n'y est plus. Le peuple de Dieu y est encore. Que Dieu nous aide à faire les bons choix, à placer notre refuge en Christ qui nous sauve du jugement dernier. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour ces images, ces textes saisissants. Nous te prions de nous aider à prendre cœur, parce qu'il s'agit des réalités importantes. Nous ne voulons pas nous tromper sur l'avenir, sur notre destinée, et nous te remercions de ce que tu nous avertis, mais tu nous offres aussi un refuge en Christ. Tu nous permets de te joindre à ton peuple pour connaître la paix, la sécurité. Seigneur, nous pouvons vivre dans ce monde, et c'est vrai que Babylone est quelque part tout autour de nous, et ça peut nous inquiéter, ça peut causer agitation, ça peut nous impressionner avec ses séductions, mais nous te prions de nous aider à voir clair et à vivre pour toi, et placer notre foi en ton plan, ta volonté, ta parole, ton Fils qui est venu, qui lui a enduré cette ardente colère à la croix, à notre place, pour nous offrir la paix, la sécurité et le repos. Nous te remercions de ce que tu nous accompagnes à chaque jour. Tu nous appelles pas à déménager au fin fond de la forêt pour échapper à Babylone. Tu nous appelles à vivre dans des grandes villes, à vivre notre foi. Et nous te prions chaque jour de nous donner la sagesse, la persévérance et l'espérance. Merci pour ce temps de culte que nous avons vécu ensemble. Remplis nos cœurs de paix, d'assurance, de confiance en toi. Te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.